L'actualité des Alpes du Sud avec le forcené interpellé lundi à Digne-les-Bains qui comparaîtra devant la justice aujourd'hui.
L'homme de 28 ans s'était barricadé chez lui armé de couteaux lorsque les forces de police ont voulu l'interpeller. Le raid de Marseille avait appelé en renfort, les policiers craignant que sa compagne ne soit à l'intérieur du logement.
Les forces de police qui doivent aussi assurer les contrôles des mesures prises face à la crise sanitaire.
Le gouvernement a décidé la semaine dernière de ne pas reconfiner, mais contrepartie, les mesures de couvre-feu et de jauge dans les grandes surfaces doivent être respectées à la lettre. Christophe Laurençois a suivi pour Alpe 1 une opération de contrôle dans les rues de Gap hier soir.
Elisabeth Borne appelle les stations de ski à embaucher les saisonniers en février.
Pourtant, les remontées mécaniques resteront à l'arrêt. La ministre du Travail a rappelé aux socioprofessionnels que le chômage partiel serait compensé à 100% par l'État jusqu'en avril.
Et puis vous verrez qu'à Montclar, il n'y a pas que le gouvernement qui vienne en aide.
Cette station, gérée par ses habitants et ses commerçants, connaît une année sombre. Alors ses fidèles clients ont décidé de lui donner un coup de pouce. Une cagnotte a été mise en place. Il s'agit de faire un don à hauteur du montant d'un forfait. Météo.
Oui, alors avec peu d'évolution, c'est-à-dire pas mal de nuages et une douceur persistante, hein, puisque les températures sur nos deux départements pour les maxis s'échelonnent de 11 à 16 degrés aujourd'hui. À la une de l'actualité, le forcené de 28 ans interpellé lundi à Digne-les-Bains par le raid sera donc convoqué aujourd'hui devant la justice.
Alors que la police nationale venait le cueillir pour des faits de menaces, violences et outrages à agents commis quelques jours auparavant, l'homme s'était barricadé dans son appartement armé de plusieurs couteaux. Les forces de l'ordre avaient fait appel à l'intervention du raid, craignant que la compagne du forcené ne soit à l'intérieur du logement. L'individu a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qu'il a placé sous mandat de dépôt. Il est donc attendu devant le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains ce jeudi pour répondre de ces faits d'outrage, de violence et de menaces sur policiers.
Les forces de l'ordre qui doivent aujourd'hui répondre à des problématiques d'insécurité mais également de contrôle des mesures face à la crise sanitaire.
Des contrôles qui sont depuis vendredi renforcés en France, contrepartie du gouvernement, après avoir décidé de ne pas reconfiner le pays. La police veille donc au bon respect du couvre-feu des 18h ou encore des jauges de 8 mètres carrés par client dans les grandes surfaces. Christophe Laurençois a suivi pour Alpe 1 une opération de contrôle menée hier soir à Gap, son reportage.
Bonsoir, madame, contrôle de police. Merci de nous présenter votre attestation dérogatoire de déplacement, s'il vous plaît.
Ce n'est pas un coup de com', mais plutôt une action pour rappeler un certain nombre de principes dans l'intérêt de chacun, insiste le directeur de cabinet de la préfète des Hautes-Alpes, Nicolas Bell. Une piqûre de rappel médiatique donc, même si les Hauts-Alpins se révèlent être de bons élèves, alors que le couvre-feu à 18h est mis en place sur le département depuis le 2 janvier dernier. En effet, depuis 15 jours, on comptabilise une soixantaine de verbalisations en zone police et une cinquantaine en zone gendarmerie. Outre la population, ce sont les grandes surfaces qui sont de plus en plus surveillées, avec une centaine de contrôles depuis une semaine. Cependant, encore une fois, les établissements recevant du public répondent en grande partie au rendez-vous, même si certaines irrégularités sont constatées à la marge. Nicolas Bell.
Un établissement, j'ai en mémoire, où la jauge est fixée à 80. Voilà, lors du contrôle, il y a quelques jours, on était davantage entre 88 et 91 clients. Du coup, on a fait un rappel à l'ordre et un contrôle aléatoire aura lieu sous 48 heures. Et si au bout de 48 heures, il est constaté deuxième défaillance, la préfète prendra ses responsabilités. Mais le but, c'est de ne pas fermer l'établissement. L'économie est déjà durement frappée dans nos territoires. Le but, c'est de faire de la pédagogie, toujours de la pédagogie, expliquer et faire en sorte que tout le monde adhère aux mesures.
En ne confinant pas le pays, le gouvernement a donc décidé de responsabiliser les Français, mais a également demandé aux forces de l'ordre de monter d'un cran, voire de deux, le contrôle de respect des mesures mises en place. Avec d'un côté la police pour les villes de Gap et Briançon et de l'autre la gendarmerie pour le reste du département, un travail de coordination est donc nécessaire pour réussir au mieux leur mission de régulation. Joël Patrick Théry, directeur départemental de la sécurité publique des Hautes-Alpes.
Avec la gendarmerie, on travaille sur des établissements. On peut très bien faire des contrôles qui sont des contrôles conjoints sur une même période horaire et sur une même unité de lieu. Par exemple, ils peuvent très bien être à l'entrée de Gap, d'un côté de Gap, et nous à la sortie, ou vice-versa au niveau de Briançon, limite de zone gendarmerie. Voire il y a peu de temps, nous avons fait un contrôle coordonné avec la gendarmerie sur Talard, qui est une zone de gendarmerie. Il y a vraiment une mutualisation des moyens et absolument aucune difficulté au niveau de cette collaboration.
Outre les forces de l'ordre, les agents de la répression des fraudes, de la direction départementale, de la cohésion sociale et de la protection des populations sont également sur le pont afin d'éviter le relâchement des commerçants. Ils veillent en effet à la présence de gel hydroalcoolique à l'entrée, ainsi qu'au respect de la distanciation sociale et de la répartition des flux.
Merci madame, bon courage et bonne soirée à vous. Au revoir.
Voilà, merci Christophe. Notez que dans les Alpes-de-Haute-Provence, le tour de vis se fait également sentir avec près de 80 opérations de contrôle ce week-end pour 74 infractions constatées par les policiers et les gendarmes.
Et ce soir, Jean Castex doit à nouveau prendre la parole.
Le Premier ministre et celui de la Santé, Olivier Véran, doivent faire un point sur la situation sanitaire à la veille des vacances de la zone A. Après le Conseil de défense hier matin, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a décrit une situation sanitaire toujours fragile qui nécessite une vigilance accrue pendant ces congés d'hiver afin d'éviter un nouveau confinement. Les vacances scolaires de février s'ouvriront donc en fin de semaine, mais si les années précédentes dans les stations, c'était l'émulsion pour accueillir ces touristes avides de poudreuse. En 2021, les mines sont tristes. Les remontées mécaniques n'ouvriront pas pour faire face à la crise sanitaire. L'annonce a été confirmée la semaine dernière par le gouvernement. L'exécutif qui, pour autant, ne veut pas lâcher le monde de la montagne. Un plan d'aide et de soutien pour 4 milliards d'euros a déjà été avancé afin d'épauler les stations et les vallées. Mais il y a aussi les saisonniers. Certains se retrouvent aujourd'hui sur le carreau. Embauchés habituellement par les remontées mécaniques, cette année, ils n'ont pas pu apposer leur signature sur un contrat et se retrouvent sans emploi. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, appelle donc aujourd'hui les stations de ski à embaucher leurs saisonniers en février pour qu'ils bénéficient comme à Noël d'un chômage partiel pris en charge à 100%.
On sait qu'on a à nouveau un pic au mois de février, où en général à 120 000 saisonniers. Je relance un appel aux employeurs en leur demandant d'embaucher leurs saisonniers, de les placer en activité partielle prise en charge à 100%. Cette activité partielle prise en charge à 100%, elle sera maintenue jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'au 15 avril. Donc vraiment, c'est très important d'embaucher ces saisonniers.
Elisabeth Borne chez nos confrères de Radio Classique.
Mais pour pouvoir embaucher, en attendant les aides de l'État, il faut aussi avoir les reins solides.
Et à Montclar, depuis l'annonce des remontées mécaniques à l'arrêt pour février, on tremble. Il faut dire que cette station des Alpes-de-Haute-Provence n'est pas gérée par un grand groupe. Non, ce sont les habitants de la commune et ses commerçants qui ont décidé il y a quelques années de reprendre les rênes. Aujourd'hui, la crise sanitaire impose à Montclar des heures sombres. Alors pour faire face, certains clients ont décidé de la soutenir. Et c'est un forfait solidaire qui est proposé à la vente. Une cagnotte qui vous permet d'espérer non pas d'emprunter les remontées mécaniques de Montclar cette année, mais d'avoir l'espoir de les voir encore fonctionner l'an prochain, Aurore Valory.
Et si vous achetiez un forfait, même s'il n'est pas possible de chausser les skis, c'est l'initiative solidaire que des clients et habitants de la station de Montclar ont eue pour lui venir en aide. Concrètement, il s'agit de faire un don équivalent au prix d'un forfait ou plus grâce à l'opération J'achète mon forfait solidaire. Un élan de solidarité qui va droit au cœur d'Alain Kièvre, le président de Montclar Domaine Skiable.
Qui est superbe, c'est cet élan de solidarité, ce geste, cette attention, cette pensée de ces clients ancestrales qui ont permis de mettre en place, qui nous ont insufflé l'envie de faire ça. Et on voit qu'il y a des gens qui sont très généreux. On a des clients d'Aix-en-Provence qui ont mis 500 euros à eux seuls. On a de tout type de participation.
Montclar, une station dont l'histoire est profondément liée à ses habitants. C'est d'ailleurs l'unique station autogérée en Europe.
Suite à des difficultés entre mairie et exploitation de domaines skiables, il y a 3 ans, la mairie a lancé un appel à candidature pour une délégation de service public. Et ce sont les habitants et les professionnels, les socioprofessionnels, les commerçants de la commune qui ont répondu et qui se sont associés. Dans les statuts, on a stipulé que c'était en économie sociale et solidaire. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de, bien sûr, de dividendes, de plus-value, ni d'enrichissement des différents actionnaires. La part de l'investissement restant quand même à la charge de la commune. En revanche, nous, tous les déficits d'exploitation, la maintenance, la communication, etc., est supporté par cette économie sociale et solidaire.
Aujourd'hui, face à la pandémie de Covid-19 et une saison blanche qui se profile, ce sont 350 emplois directs et indirects qui sont impactés, rappelle Alain Kièvre.
Il y a les 50 emplois des remontées mécaniques, mais il y a également tout ce qui est magasin de sport, emploi de l'hôtellerie-restauration, tout ce qui est commerce, boulangerie. Très clairement, ça va nous aider de toute façon à assumer nos charges fixes. On a une annonce gouvernementale pour une prise en charge de nos charges fixes. Ça se joue avec les 3 mois de dépenses, c'est-à-dire de neige de culture, de sécurisation, de maintenance, d'entretien. On a dépensé depuis octobre, novembre, décembre, et on a 0 recette. Cette cagnotte, elle est bienvenue, mais pour la prise en charge de toutes ces missions, mais en attendant, le fonds de solidarité.
Si vous souhaitez vous aussi acheter votre forfait de ski de façon symbolique, rendez-vous sur alpe1.com.
Merci Aurore.
Alpe 1 Sport. Alpe 1 Sport.
Ah, le sport peut aussi se faire assis et une manette à la main, il s'en arrange certains.
Oui, et c'est ce qu'on appelle le e-sport qui fait de plus en plus d'émules partout dans le monde et surtout sur nos canapés, y compris sur ceux des Rapaces de Gap et des Diables Rouges de Briançon. Les 12 clubs de Ligue Magnus se sont affrontés derrière leurs écrans ce mardi, chacun représenté par un e-joueur pour cette première édition de la e-hockey cup. En direct sur le réseau social Twitch, on peut donc les voir s'affronter sur le jeu vidéo NHL dans un moment de convivialité, mais teinté malgré tout de compétitivité. Après 2 victoires face au Joker de Sergi Pontoise et au Gothique d'Amiens, Pierre Aubert des Rapaces de Gap a chuté en demi-finale face au futur vainqueur du tournoi, Quentin Tomasino des Dragons de Rouen. Quant au Diable Rouge de Briançon, la compétition s'est arrêtée dès le premier tour après la défaite de Quentin Fauchon.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com.